Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure du Énervé, le magazine coup double chaque soir, 18h en podcast, avant le passage antenne de 22h à minuit, première partie de l'actualité et la musique live, deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, c'est Sarajevo, 25 ans plus tard, à l'occasion de la sortie demain du film Sympathie pour le Diable de Guillaume de Fontenay, un film d'action qui raconte un moment de bascule dans le parcours du grand reporter Paul Marchand, le siège de Sarajevo, pas facile à dire, qu'il a couvert avant d'être grièvement blessé par un sniper. 25 ans plus tard, retour sur cette histoire, le conflit yougoslave aussi, qui, rappelons-le, a fait plus de 100 000 morts à 2 heures de la France. On va en parler ce soir avec nos invités qui tous sont allés à Sarajevo en reportage. Christophe Bourseiller, un titre?
Oui, moi je n'y étais pas à Sarajevo, je tiens à préciser quand même, hein, je suis bien le seul évidemment dans cette salle. Les titres, il y en a plusieurs. D'abord, moi j'aimais beaucoup le titre, d'ailleurs, que je vous ai proposé tout de suite et que vous avez accepté avec enthousiasme. Sarajevo, le diable probablement. Vous voyez, c'est une petite référence cinématographique légèrement différente. Ensuite, Noël au balcon, pas cotisant, enfin bref, vous m'avez compris. Sarajevo, la guerre de trop.
Marion n'a pas compris.
Non, vous n'avez
pas
compris. C'est-à-dire...
Noël au balcon, oui. Pas cotisant.
Noël au balcon.
Pardon,
c'était très mauvais. Sarajevo, une guerre qui ne passe pas, ou alors le titre que vous proposiez, Laurent, Boulite à Sarajevo.
Vous venez juste de reprendre la formule que j'ai eue en arrivant dans le
formules,
studio.
Vous savez, vous êtes tellement
payé pour
brillant.
Ça. Et sur le plan musical, ce soir, Marion Guilbeault, pour finir cette première heure.
Winter is coming. Laurent, vous le savez ça, Winter is Coming, avec le folk mélancolique du Canadien Leif Volbeck. Il est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le Énervé la suite. France Inter, plus de Chris cette semaine. Hommage à cette voix sensible de la radio qui nous a quittés il y a 10 ans. Ce soir au programme, ce sera son portrait sensible d'Irène Savignon, qui est une enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de vous écouter, Christophe Bourseiller, avec toujours ce plus grand intérêt qui m'anime, je vous présente nos invités.
C'est là où je vous aime.
Martin Laroche-Joubert, grand reporter à France 2. Vous étiez à Sarajevo pendant le siège. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Pareil pour vous, Éric Bigala. Vous êtes journaliste au service étranger de la rédaction de France Culture. Vous y étiez aussi.
Bonsoir.
Pareil pour vous, Romain Goupil. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Guillaume de Fontenay est avec nous. Vous signez Sympathie pour le Diable. Le film sort demain en salle. Gros plan sur Paul Marchand, grand reporter, une figure forte du métier. On le retrouve à Sarajevo pendant le siège qu'il couvre. D'abord en freelance, avant de devenir le correspondant de plusieurs radios internationales. Un Paul Marchand toujours en mouvement, qui compte les morts, qui dénonce inlassablement l'inaction des organisations internationales. Avec cette question en suspens, quelle distance garder avec le terrain ? Bande annonce.
Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale.
Paul Marchand à Sarajevo pour France Info.
Paul Marchand à Sarajevo pour Radio-Canada.
Paul Marchand à Sarajevo pour RTB.
Ça va passer tôt ou tard, ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, vous savez très bien ce qui se passe.
Found a girl for you.
Translator you asked for?
Franzosi, ils sont où ils rattrapent 100 godina.
Putain, ils sont juste en face de l'hôtel.
Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale.
Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien.
Mais quoi, ça te donne pas, toi, de te faire du fric sur le dos des morts?
Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. T'es pas ici parce que t'aimes ça.
Putain, on est pas ici pour parler, on est ici pour parler d'eux, merde!
Un film qui a gagné 10 prix, c'est cela, hein, oui. De Fontenay. 10 prix.
Absolument.
Bravo, ça sonne
dans le dernier mois.
Merci. Tout de suite, l'éditorial, Christophe Bourseiller.
Ça peine le faire, maintenant que je sais que ce film a gagné 10 prix. Vous savez, Laurent, c'est pas seulement l'histoire de la Yougoslavie qui s'est scellée à Sarajevo, c'est aussi l'histoire de l'Europe. On nous répétait comme un mantra qu'avec la construction européenne, il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe et qu'on nous assurait des dizaines et des dizaines d'années de paix et de prospérité. Là-dessus, patatras, la Yougoslavie se démantèle dans le fracas, le sang et les larmes, et on voit poindre un scénario, hélas bien huilé, d'un côté les pro-occidentaux appuyés par les frappes de l'OTAN, de l'autre les pro-russes, c'est-à-dire les Serbes, qui tentent d'imposer leur mainmise. Qui est gentil, qui est méchant ? Tout le monde commet des crimes, même si la palme semble revenir aux Serbes, qui paraissent durablement discrédités par les exactions. Et puis, il y a, Laurent, l'interminable siège de Sarajevo, qui oppose en Bosnie les Serbes orthodoxes et les musulmans. Mmh. Guillaume de Fontenay, pourquoi raconter en 2019 ce siège incroyablement violent qui marque le recul de la civilisation ?
Parce que je crois qu'il est urgent de se rappeler à l'histoire, que c'est une histoire importante. Et au travers de Paul, qui est un fil d'Ariane qui me permet de...
Paul Marchand, hein,
Paul Marchand, grand reporter, qui me permet de rentrer dans ce siège et au travers de lui de rencontrer et ses collègues journalistes, quelques-uns seulement, malheureusement on est 1h40, cette population aussi avec lesquels ils étaient en contact. Et c'est la particularité de Sarajevo aussi, c'est que les journalistes ont vécu avec la population. Paul y a passé presque un an et demi, d'autres y ont passé encore plus de temps. Mais ce rapport, cette proximité avec la population immédiate change la donne, évidemment, d'un point de vue journalistique et d'un point de vue humain. Ce film me semble important parce qu'il nous rappelle notre apathie collective face à des enjeux. On peut se rappeler la Syrie en ce moment, le Yémen, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, partout. Donc il y a une urgence pour moi de rappeler ce cri d'alarme qu'avait Paul à l'époque. Et c'est d'en faire un film à la fois radical mais aussi humain parce que le personnage est complexe et il a ses fêlures et il y a aussi une humanité qui se dégage au travers de tout ça qui est très forte.
Vous l'avez connu d'ailleurs, Paul Marchand, Martine Laroche-Joubert.
Oui, j'ai connu Paul Marchand. C'était un personnage qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Hein. C'était une grande gueule, provocateur, souvent agressif. Un trompe-la-mort, il ne portait jamais de gilet pare-balles, il se moquait des journalistes qui portaient un gilet pare-balles. Et je me souviens, quand il montait, on avait une voiture blindée au bout de quelques mois à Antenne 2, à France 2, et quand il montait à l'arrière de la voiture, il laissait toujours la portière ouverte. Et je me souviens, le caméraman lui disait « Mais enfin Paul, si on nous tire dessus, à quoi ça sert d'avoir une voiture blindée si tu laisses la porte ouverte ?» Paul rigolait et on laissait la porte ouverte. Voilà, mais c'était un... Mais en même temps, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui ne se préservait pas. Il prenait l'histoire de Sarajevo, ce qui se passait à Sarajevo, comme sa propre histoire, comme une histoire personnelle. Et c'est en ça que aussi que ce film est intéressant. C'est pas simplement une histoire des journalistes, c'est d'abord à quoi servent les journalistes, et puis quelles sont les limites, quelles sont les lignes rouges. Est-ce que éprouver trop d'empathie pour un camp, est-ce que ça fausse le regard ?
C'est le problème de Paul Marchand, semble-t-il, puisqu'à un moment donné, il va aider les Bosniaques contre les Serbes. Est-ce que c'est pas sortir de son rôle de journaliste que de faire ça ?
Je pense que oui, je pense qu'il franchit une ligne rouge, même si je le comprends. Je comprends qu'à un moment, la situation était tellement inacceptable que, voilà, à un moment, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Je peux le comprendre.
Dans le film, c'est la mort d'un enfant. C'est autour de la mort d'un enfant qui a été tué par un sniper dans un appartement que quelque chose bascule en effet dans le regard qu'il pourrait avoir. Eric Bigala.
Alors il y a plein de choses effectivement qui peuvent faire basculer. Il y a une autre chose qui est quand même très spécifique au métier, on va dire, et à la situation du correspondant de guerre qui, au contraire de l'envoyé spécial, qui reste parfois plusieurs semaines, le correspondant de guerre vit là-bas. C'est-à-dire que très rapidement, les morts ne sont plus des anonymes. C'est pas simplement, ce sont des voisins, ce sont des petites amies, et on a tous, quand on a vécu là-bas, on a tous connu ça. Donc, au bout d'un moment, évidemment, on fait partie complètement de cette histoire. Même si notre rôle, c'est de la chroniquer, c'est de la raconter, c'est de la dire, pas forcément, on y participe d'une manière ou d'une autre. Alors, effectivement, de temps en temps, on a fait passer des trucs dans un camp comme dans l'autre. Moi, je me suis retrouvé à faire passer des messages d'une mère de famille qui avait deux fils dans chacun des deux camps. Et je faisais passer des messages de l'un à l'autre.
Mais vous, c'était pas des armes.
C'était pas des armes. Mais faire passer du texte, quand on lit pas forcément la langue, ce qui était effectivement mon cas au début, je maîtrisais très très mal le serbo-croate, c'était difficile de savoir ce qu'on faisait passer comme message. On faisait passer ça d'un camp à un autre. Ça fait, là on commence à remettre le pied ou la main ou le doigt dans quelque chose qui est plus véritablement la chronique. Après, il y a aussi autre chose. Quand on a des blessés qui sont là en face, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les chercher. Des fois, on prend la photo aussi.
C'est ce que l'on voit dans le film, ouais.
Alors, dans le film, on voit ça, mais nous, alors, on faisait de la radio, on ne prenait pas de photos, mais effectivement, des fois, bah, faut sortir le micro, etc. Pour avoir simplement des gens qui sont en train de gémir, c'est un petit peu dérangeant, mais après, bah, il faut pouvoir les transporter. Ruiner les sièges de sa voiture, parce que quelqu'un qui a une artère fémorale ouverte, etc., et qui pisse le sang, j'ai ruiné deux sièges arrière, mon véhicule, et retrouver un siège arrière, c'était pas évident. Tout simplement parce que c'est innettoyable, ce genre de choses.
Romain Goupil, vous, qu'est-ce que vous faisiez à Sarajevo? Et comment vous avez regardé ce film aujourd'hui?
Déjà, pour le film, j'y étais à reculons en me disant c'est de la fiction, c'est compliqué sur cette situation, sur les drames qu'il y a eu. Et c'est mon boulot, donc j'y vais, un peu... à reculons. Et j'ai trouvé le film très bien parce qu'il est justement très sobre. Il va rester sur... Il y a une unité de lieu. Le temps est vraiment très précis. C'est-à-dire, on comprend. Et il ne va pas se lancer sur la mort de l'enfant, qui est quelque chose d'épouvantable au cinéma. Elle arrive de... Enfin, là, pas casser l'histoire, mais c'est absolument magnifique comment c'est traité dans la sobriété, ce film. Alors que je pouvais redouter en plus, par rapport à ce qu'était Paul, et le côté dandy, le côté...
Va-t'en-guerre.
C'était un dandy.
Absolument.
Racontez aux auditeurs qui étaient Paul Marchand.
Il y en avait plusieurs.
Je me souviens, par exemple, la première fois que j'ai vu Paul Marchand, je suis arrivé en août 92, et dans le hall de l'Holiday Inn, donc, qui est décrit dans le film, qu'on voit assez bien, bon, il a été refait. C'était quand même un peu plus crado à l'époque, il n'y avait pas les vitres, etc. Et je vois arriver un type qui avait un canotier, qui avait des super lunettes de marque, une chemise rose Kenzo, un pantalon en cuir, pas en sky, en cuir, et des boots, et avec un gros cigare, il fait « Alors les moulots, on vient à la guerre ?» C'est un personnage.
Vraiment. Et vous, Romain Goupil?
C'était la provocation, comme le dit Martine, permanente, c'est-à-dire faisant. Il s'amusait à descendre en rappel dans le hall de l'hôtel, histoire de frimer, tant qu'à faire. Mais c'était celui qui frimait le plus. À un moment donné, il décide rien de mieux que dans l'avenue Titova de traverser sur un cheval blanc. D'où devenait ce cheval? Comment il était là? Pour bien montrer que tout sniper, non seulement il était la cible et il s'offrait comme cible, mais en plus à cheval, pas un cheval au galop. Ou pas. Tout comme ça, tout.
Il était suicidaire ?
Il était, à un côté, en disant, on est en train d'assassiner une population, un peuple, j'en fais partie, et donc je prends autant de risques que celle qui l'aimait, et qui l'aimait, Boba, que je connaissais aussi, une magnifique, et Dieu sait s'il y en avait des magnifiques, filles à Sarajevo, il s'est engagé complètement dans ce conflit. C'était un personnage. Après, j'y suis retourné avec lui et Rémi Ourdan une fois la paix, si on peut appeler ça la paix, enfin, une fois les accords de Dayton signés. Et là, on a reparlé de toute cette histoire et il revenait pour la première fois à Sarajevo.
Martine Laroche-Joubert.
Ah, il avait du succès, hein, Paul Marchand. il faut dire qu'à Sarajevo, il y avait beaucoup de tentations. Les filles qui nous servaient d'interprètes, de fixeuses, étaient généralement ravissantes, blondes. Elles parlaient en effet plusieurs langues. Elles étaient intelligentes. Et toujours, les garçons dans mes équipes tombaient systématiquement amoureux. Donc... Paul certainement était amoureux. Il a même eu une histoire d'amour avec une célèbre journaliste américaine.
On voit dans le film, c'est pas la journaliste américaine.
Non, il a eu une histoire d'amour avec une journaliste américaine. Donc oui, il avait Paul avait du succès, mais en même temps, je trouvais que c'était finalement un personnage. À la fois, il faisait des papiers formidables parce que c'était un très bon journaliste, mais c'était aussi quelqu'un de fragile. Et de beaucoup plus attentif aux autres qu'on pourrait le penser. Moi, quand j'ai été blessée, par exemple, en avril 93, j'étais sur une civière à l'aéroport avant d'être évacuée, et c'est la seule personne qui est venue m'apporter un verre d'eau. Et c'était, j'ai vu dans son regard quelque chose d'extrêmement gentil, attentif.
Vous avez tourné où pour ce film ?
À Sarajevo.
À Sarajevo même ?
Oui, à Sarajevo avec une équipe majoritairement bosnienne.
Ça posait des problèmes ? Il y a eu des tensions ?
Non,
même.
Pas du tout. Pas du tout. Oui, il y a eu des permissions qui ont été difficiles à obtenir, par exemple sur l'armement ou des choses comme ça. Ça a été compliqué, mais au contraire, l'équipe bosnienne a été d'une générosité extraordinaire face à ce film et face à leur histoire aussi, puisque c'est
leur histoire qui est racontée.
Chaque personne qui était dans notre équipe, qui avait plus de 30 ans, avait vécu ce siège.
Et comment vous leur avez montré le film ? Est-ce que ça a été c'est
pas
sorti
encore,
là-bas
pas encore, non, pas encore non, on n'a pas encore non, sorti le film. Non. On pense faire ça au mois de mai ou quelque part par là. Donc dès qu'on va pouvoir aller le montrer, on va aller le montrer. Il y a une chose par contre qui m'a choqué tout à l'heure. Vous avez présenté le siège en disant Sarajevo, donc une ville où il y a Serbes orthodoxes et Bosniaques musulmans.
Musulmans, ouais.
Et je trouve ça très particulier parce que on a beaucoup fait on a beaucoup identifié les gens selon leur religion, mais il faut savoir quand même qu'à Sarajevo, je n'ai vu personne de religieux.
Et pour autant, c'est un moment du film, justement, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « oui, il y a des musulmans », et justement, l'interprète dit « c'est la première fois que j'entends parler de religion ». Donc quand même si en effet, ça paraît aujourd'hui un petit peu spécial, cette question-là des religions était peut-être pas centrale, mais était évoquée à ce moment-là même.
Et c'est politique, c'est-à-dire que c'est absolument pas central au point qu'à un moment donné, au bout de 2 ans de guerre, puisque moi, alors là, pour le coup, je militais, c'est-à-dire j'étais sur les meetings à Paris, les manifs, les pétitions, essayer de faire changer le point de vue du pouvoir à travers la liste Sarajevo, Rocard, la dénonciation...
Oui, l'Europe commence à Sarajevo.
La dénonciation permanente de Mitterrand qui disait qu'il ne fallait pas rajouter la guerre à la guerre, l'ignominie de son passage à Sarajevo, disant là, c'est protégé, mais vous pouvez attaquer Srebrenica et Goražde, c'est-à-dire disant, là, puisque je suis passé, on va rester sur un truc humanitaire. Monstrueux, la politique du PS à l'époque. Donc, au bout de 2 ans, les responsables que je voyais, les ambassadeurs, les Bosniens, les Bosniaques, puisqu'à l'époque on s'appelait Bosniaques, disaient, mais tu peux dire que moi je suis croate, que moi je suis serbe, que... C'est multiculturel, c'est-à-dire Sarajevo était l'idée...
Mais c'est toute la Yougoslavie qui était comme ça au départ, qui était un creuset multiculturel.
Non, mais sauf les Serbes. Alors, les Serbes voulaient imposer un rapport de force en disant nous, la destinée de la future Yougoslavie, c'est la Grande Serbie. Donc on va écrabouiller, et là ils ont commencé à désigner Sarajevo en disant c'est des musulmans. Mais... Et quand on reprend cette explication-là, c'est comme exactement comme maintenant, une explication identitaire qui est absolument contre pourquoi tout le monde combattait. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ça me gêne de dire que j'ai vu un Bosniaque, j'ai vu un Serbe, j'ai vu un musulman, j'ai vu un catholique, c'est absurde.
Et puis Romain, il faut aussi préciser un truc, c'est que quand tu dis les Serbes, c'est pas tous les Serbes, loin de là. C'est les nationalistes serbes. À Sarajevo, pendant toute la guerre, il y a eu plein de Serbes. Boba est serbe, la famille de Boba est serbe. Moi, j'ai vécu dans une famille alors qui était complètement mélangée.
Boba, c'était l'interprète.
Boba est l'interprète. Le premier chef de la défense de Sarajevo, général Divjak, est un Serbe. Enfin, il y a des Serbes, il y en avait partout, dans la ville.
Mon amoureuse, voilà, à Sarajevo, avec qui je suis marié depuis, avec qui j'ai les enfants, était Serbe.
En fait, c'était les nationalistes serbes qui attaquaient, et ce sont les nationalistes croates qui ont surattaqué. Et puis on a eu après l'invention des nationalistes bosniaques, ça c'est autre chose.
On va revenir sur le dossier dans quelques instants. Lui, il chante justement le vivre ensemble. C'est Jean-Louis Hubert. Pas du tout, c'est Jean-Louis Aubert dans le NRV. Hubert, n'importe quoi.
Curieux. Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre. S'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent le regarder. L'amour suit son cours et le cours de ce jour le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante, la nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour suit son cours et le cours à ce jour. Le maître dit respirer. Il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville est souvenir. En vain chante ces trains et je sais où ils mènent, dans la gare désertée chante un autre avenir. L'amour suit. Rester. Les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis, et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver. Donc la retrouver, il va la retrouver, va la retrouver.
Où je vis, un extrait de Refuge, le nouvel album de Jean-Louis Aubert.
Rendez-vous. Aujourd'hui, en plein cœur de Sarajevo, une scène d'horreur comme on en a l'habitude. Un sniper perché sur les collines a encore choisi d'enlever la vie à un enfant. Le projectile de calibre 308, provenant sans doute d'une carabine Dragunov, n'a laissé bien sûr aucune chance au petit Hadi, 3 ans et demi. Son crâne a volé en éclats. L'enfant n'a pas souffert. Sa mère, en revanche, a hurlé tout au long du trajet inutile vers l'hôpital. Pendant ce temps, la communauté internationale se questionne et piétine, incapable d'accoucher de la moindre résolution pour empêcher le massacre de dizaines de victimes innocentes chaque semaine, comme ce fils qui ne verra pas la fin de la guerre.
Le nouveau rendez-vous.
Bon, ça va, vous avez tout?
Non, je ne change rien, pas un mot, pas une virgule, rien. Vous le prenez comme ça ou vous le prenez pas, et si ça passe pas, vous allez vous trouver un autre correspondant. Non, c'est non négociable. Ça fait bientôt un an qu'on raconte la merde de Laurent avec des mots raisonnables. Et ça donne quoi?
Laurent Goumard, sur France Inter.
Et oui, c'est aussi ça la question. Ça donne quoi? Comment on rend compte d'un conflit? On vient d'écouter tout de suite un extrait du film Sympathie pour le Diable qui sort demain en salle, un film que vous signez, Guillaume de Fontenay. Juste une question pour vous, Martine Laroche-Joubert. Vous étiez aussi à Sarajevo pendant le siège, vous avez couvert le conflit. Comment vos reportages étaient perçus à France 2?
Alors, on avait souvent du mal à diffuser, à faire diffuser nos reportages, tout simplement parce que les téléspectateurs zappaient quand ils voyaient un reportage sur Sarajevo. Je pense que on leur tendait à ce moment-là un miroir peut-être terriblement déformant des victimes, des bourreaux dans lesquels ils pouvaient peut-être s'identifier d'une certaine manière. Alors, quand je revenais à Paris, les gens me disaient, mais comment vous osez montrer de telles horreurs aux 20h? Puis d'ailleurs, on n'y comprend rien dans cette histoire, qui pourtant était finalement assez simple.
Parce que ça, on essayait de faire croire que le conflit était complexe.
Oui, mais en réalité,
semble-t-il.
Non, mais en réalité, Sarajevo, c'était assez simple. Sarajevo était une ville au fond d'une cuvette. Voilà, une ville qui avait connu les Jeux Olympiques en 1984. Donc, une ville qui n'était pas dans un continent lointain. C'était en effet à 2 heures de Paris. Et tout autour, il y avait les Serbes qui bombardaient la ville. Voilà, c'était aussi simple que ça. Bon. Et en effet, les réactions étaient hostiles. Et les gens ne voulaient pas voir ça. Et donc, on se bagarrait avec nos rédacteurs en chef. Je dois dire que la plupart du temps, on gagnait. Hein. Finissait par diffuser nos reportages. Marcelo Fuls a fait un film là-dessus. Il est arrivé à Sarajevo avec l'idée que les reporters de guerre étaient de grandes gueules, qui buvaient du whisky sur fond d'immeubles calcinés, enfin, etc. Et il nous a vus en train de sans eau, sans électricité, on le voit très bien dans le film, et luttant avec nos rédactions pour faire passer nos reportages. Il a changé complètement son point de vue, et on est devenus, nous, des sortes de héros, entre guillemets. Et en revanche, après, il est allé dans les grandes capitales occidentales pour montrer que les vrais salauds, ils étaient souvent là.
Éric Bigala, vous avez le sentiment aussi que c'était difficile de se faire entendre ici en France par rapport à ce conflit ?
Pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai même été surpris par le contraire. Je suis arrivé à l'été 92. Bon, j'ai eu plusieurs mois d'absence entre 92 et 93. Et ensuite, je suis resté en permanence. J'ai envoyé 4000 reportages. Ça fait quand même pas mal en 3 ans et demi. À la fin, j'étais surpris qu'on j'ai toujours une demande parce que j'avais une demande. Alors c'était moi, je travaillais pour les radios. Hein, la radio, c'est simple comme un coup de téléphone. C'est beaucoup moins lourd, on va dire, que la télévision, surtout à l'époque. Hein, la télévision, on n'était pas encore en digital. Et bon, il fallait un banc de montage. Enfin, bon, c'était tout de suite très très compliqué, très cher de faire de la télévision. La radio, en revanche, c'était extrêmement simple. Et il y avait toujours un intérêt. Moi, j'arrivais à envoyer entre 8, 10, 12 sujets par jour sur les différentes radios, notamment les radios de Radio France, mais pas que, les Suisses, les Belges, les Canadiens. Et il y avait toujours une demande, il y avait un intérêt. J'étais le premier surpris. J'étais persuadé qu'au bout de 6 mois, surtout que l'affaire n'avançait pas. C'était toujours une histoire de siège, c'était toujours à peu près les mêmes histoires. C'était soit les conséquences de la guerre pour les civils qui vivaient ce siège, qui en mouraient évidemment parfois. Soit quelques petites offensives, mais c'était ridicule. Et cette guerre qui était pratiquement une guerre de tranchées, qui a duré 3 ans et demi, continuait à intéresser, en tout cas les rédactions. Moi, j'avais des demandes.
Alors, il y a effectivement le siège de Sarajevo, où on peut toujours dire qu'il y avait des bons qui étaient ceux qui étaient assiégés et des méchants qui assiégeaient. Mais plus généralement, quand on prend cette guerre de l'ex-Yougoslavie, la complexité de cette guerre de l'ex-Yougoslavie qui a fait 100 000 morts, 2 millions de réfugiés, on a vu un pays qui a existé pendant des dizaines et des dizaines d'années qui explose subitement. Et là, c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi est-ce que les Serbes deviennent méchants, les Croates sont gentils, les Bosniaques sont charmants, les Slovènes sont indifférents? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de complexité et se dire, et c'est ce que disaient beaucoup de gens à l'époque d'ailleurs, finalement les journalistes, ils ont réussi à faire un camp du bien, un camp du mal. C'est comme au Vietnam, les gentils vietnamiens du Nord, les méchants vietnamiens du Sud, alors que les choses sont peut-être plus compliquées en Yougoslavie.
Alors, Éric Bigala et ensuite Romain Goupil.
Et ouais. Romain Goupil qui ne sera pas d'accord.
Non, je pense qu'on va être assez d'accord avec Romain. En fait, il y avait effectivement deux camps relativement tranchés. C'était le camp des nationalistes, parce qu'il y en avait plusieurs, et le camp des autres qui n'étaient pas nationalistes et qui pouvaient être aussi bien musulmans que croates, que serbes. Bon, voilà, ça c'était, on va dire, le partage des eaux principal. Mais effectivement, comme c'était une guerre de nationalistes, vous aviez aussi les trois camps qui avaient chacun leur nationaliste, et ces nationalistes s'attaquaient aux deux autres, ou pas. Il y avait des alliances de temps en temps entre les nationalistes croates et puis les musulmans. Quand on dit musulman, faut voir un petit peu ce que c'était. Au début, moi, quand j'arrive en 92, je m'aperçois que les gens ne savent pas faire la prière pour les morts, tout simplement, en islam. Là, je le connaissais mieux qu'eux, parce que j'avais fait un peu de reportage au Moyen-Orient avant. Donc c'était des musulmans par tradition plus qu'autre chose.
Il y avait une milice qui s'appelait Lucheka.
Non, alors Lucheka, c'est plus tard, c'est au Kosovo, c'est en fait, on va dire, c'est l'armée milicienne des Kosovars, et c'est, elle, pour le coup, effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions sur, mais ce sont quelque part, ce sont des nationalistes aussi, kosovars, hein, albanais. Et en Bosnie, on n'a pas ça. On a dans la ville de Sarajevo, à peu près, et dans la Bosnie-Herzégovine, à peu près 12%, je crois, de la population qui se dit yougoslave ou mixte. Donc ce sont des mariages mixtes. Donc ce sont des gens qui sont à la fois croates et serbes, à la fois musulmans et croates.
On n'a pas l'impression que les nationalistes serbes ont été, parce que c'est ce qu'on lit, par exemple, le tribunal pénal de Yougoslavie qui a fermé en 2017, il y a eu 161 inculpés, majoritairement des serbes. Est-ce qu'il n'y a pas eu là une... Ils étaient coupables, je n'en doute pas, mais est-ce qu'il n'y avait pas des coupables aussi du côté, par exemple, des croates?
Ah oui, des coupables du côté Martine des Croates, ça c'est sûr. Mais moi j'ai suivi une histoire dans le petit village d'Avici, où en effet les Croates ont tué une centaine de personnes dans ce village, c'était des musulmans, et quand on est arrivé, ils nous ont pris dans une embuscade. Enfin, c'était la première fois d'ailleurs que les casques bleus ont réagi contre les Croates, parce que la situation était complètement dingue aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des casques bleus, mais ils n'avaient pas le droit d'intervenir. On les voyait attendre au checkpoint des heures et des heures comme ça, alors que nous passions, on comprenait même pas. Ça avait un côté invraisemblable.
On voit très bien dans le film,
absolument.
De Guillaume de Fontenay.
Oui.
Romain Goupil.
Oui, sur cette situation, ce qui se passait en Yougoslavie, le but du pouvoir et le but des commentateurs, c'était de dire c'est complexe pour pas qu'on désigne l'agresseur. Si vous désignez l'agresseur, vous êtes obligé de faire une réaction internationale. Si vous dites ce qu'a empêché Villepin, ce qu'a empêché Mitterrand, qu'il y a un génocide au Rwanda, vous êtes obligé, c'est dans les chartes internationales, d'intervenir. Là, pour un accord entre Major, qui était le dirigeant anglais, l'accord entre Mitterrand, c'est de dire en aucun cas, il ne faut que ce pays éclate, c'est-à-dire explose. Et les communistes, qui étaient la Ligue des communistes serbes, voulaient garder la mainmise à la fin, à la chute du mur de Berlin, voulaient garder la mainmise sur l'ex-Yougoslavie. Mais immédiatement, les Slovènes, les Croates, ceux qui avaient été maintenus dans cette organisation de type communiste, se sont rébellés. Je parle au sein du Parti communiste. Et vous avez dans Suicide d'une nation le magnifique documentaire qu'on voit. On voit très bien, là, il y a des caméras de surveillance et on enregistre ce qui se passe autour du comité central. Et comment ils vont se battre? Et les Serbes, à un moment, disent, ils se battent plus. Ils attaquent la Slovénie, ils attaquent la Croatie. Donc vous pouvez pas mettre sur le même plan ceux qui vont se défendre de manière nationaliste, effectivement, à un projet qui était celui de la Grande Serbie. Parce qu'ils ont été cherchés avec des intellectuels pour justifier cette guerre, l'idée qu'il y avait eu la bataille des Merles en 1389, où les Ottomans avaient fait perdre les Serbes, et que maintenant il fallait prendre une revanche historique, et que c'était le moment ou jamais. Donc il y a eu une association absolument incompréhensible pour les Parisiens, encore que ils ont fait semblant de pas comprendre, entre les communistes et les nationalistes. Et c'est le truc le pire. C'est ce qui se passe en Yougoslavie annonce le pire avenir. C'est-à-dire la 5 étoiles. C'est-à-dire tous ces trucs entre nationalistes, cet accord entre les Marine Le Pen et les Mélenchon.
Et c'est là que vous participez à une liste aux élections européennes. L'Europe commence à Sarajevo.
L'Europe commence ou était en train de se terminer, en train d'être massacrée. Cette idée, cette utopie incroyable qui est après la Seconde Guerre mondiale, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait tous les peuples avancent dans cette direction-là, en se réconciliant, c'est le coup d'arrêt et le massacre qu'il y a à Sarajevo et la fin, le début de la fin de cette idée. C'est pour ça qu'on va se battre tous en disant si on arrive à une paix, si on arrive à une intervention à Sarajevo, l'Europe commencera ou continuera à Sarajevo.
Mathilde Laroche-Joubert, à quel moment vous êtes partie justement, vous, de ce conflit ?
Moi, je suis partie en avril 93. Voilà, j'ai été légèrement blessée, et je suis partie à ce moment-là. La première fois que j'y suis allée, c'était en juin 1992. C'était le tout début, et à ce moment-là, l'aéroport était même fermé. Hein, les Serbes tenaient tout, ils encerclaient la ville, et il y avait Bernard Kouchner qui était là et qui avait essayé de faire passer des médicaments, etc. Il a pas réussi, il a fait demi-tour, et moi j'ai pu rentrer grâce à une jeune femme qui travaillait pour Pharmaciens sans frontières, qui s'appelait Isabelle Achour. Elle a parlementé pendant une semaine avec les Serbes pour qu'ils nous laissent rentrer. À ce moment-là, la rédaction nous avait laissé, le caméraman Jean-Marie Lemaire et moi, sur le terrain, sans pression. Et puis un soir, les Serbes nous ont dit « Allez-y, allez-y. Et c'est vrai qu'on est rentré dans l'enfer absolu. Les obus, à ce moment-là, tombaient toutes les 30 secondes. Le général Mladic avait dit « bombardez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent fous ». Et on comprenait vraiment ce que cela voulait dire. Et l'hôtel Holiday Inn, le fameux hôtel où on voit Paul Marchand, n'était pas ouvert à ce moment-là, donc on était chez l'habitant. Et en même temps, Sarajevo, c'est un journaliste du New York Times qui a dit ça, en même temps, Sarajevo, c'était un rêve de journaliste, hein, parce que il y avait une unité, en effet, de lieu, une unité d'action. On trouvait tous les jours de nouvelles histoires, même si je maintiens que quelquefois à Paris, il rechignait un peu à les passer, mais on trouvait toujours des histoires extraordinaires. Je me souviens d'un professeur de géographie, par exemple, qui était devenu sniper et qui, dans les décombres de sa propre université, tirait sur d'anciens collègues et d'anciens élèves. Je me souviens de jeunes. Oui, je me souviens de jeunes de 17 ans.
Comme ça, il y en avait.
Des jeunes de 17 ans qui allaient à une boum sur la ligne de front. Ils arrivaient comme ça en courant, courbés sous les tirs pour entendre du Michael Jackson avec un générateur. Des histoires comme ça, je me souviens.
Au cinéma au Radnik, tu y allais sous les tirs des snipers.
Exactement. C'était des histoires comme ça extraordinaires. Je me souviens d'un prêtre aussi qui partait en vélo pour aller bénir des maisons aussi qui étaient bombardées sur la ligne de front. Voilà. Et des histoires comme ça, on en trouvait tous les jours. C'est en ça aussi que c'était un rêve de journaliste.
And
She's My Sunshine, signée Céleste, la nouvelle voix de la soul anglaise. Programmation, il est notre soleil, Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Sous Tito, il y avait la sécurité. Sous Tito, l'éducation et l'université étaient gratuites. Pourtant, le régime Tito, c'était aussi le parti unique, la répression des opposants, le culte de la personnalité. Mais près de 40 ans après la mort de Tito, il y a aujourd'hui dans la région de nombreux yougos nostalgiques.
Oui. France Inter.
À cette époque, nous étions en fin de compte une petite Union européenne. Un pays avec plusieurs langues, plusieurs républiques et plusieurs nationalités. Nous étions beaucoup plus unis. C'est ce que les gens ressentent aujourd'hui. Ce dont ils ont envie et ce qui leur manque.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aviez les assurances gratuites, vous aviez les médicaments gratuits et tout le reste. Mais le plus important, c'est qu'il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas de haine entre les Serbes et les Croates, et les musulmans et les autres.
Laurent Goumard.
C'était vraiment formidable, hein. Yougoslavie, mon amour, c'est le sujet de la troisième partie du Énervé ce soir. On en parle avec nos invités. Guillaume de Fontenay pour son film Sympathie pour le diable qui sortira demain en salle. Martine Laroche-Joubert, grand reporter à France 2. Éric Biegala, journaliste de la rédaction de France Culture, et Romain Goupil, le réalisateur qu'on connaît. Vous reprenez la main, Christophe Borsellier.
Oui, parce qu'en fait, ce qui caractérisait la Yougoslavie, ça a quand même duré de 1918 à 1992, c'est le fait que c'était un État multiethnique. Et je me souviens qu'on avait reçu il y a quelque temps un Serbe nationaliste qui est Slobodan Despot, mais qui avait avoué « Je suis Serbe, je défends la cause serbe, mais je suis serbo-croate ». C'est-à-dire qu'en réalité, sa mère était croate, son père était serbe, et donc il avait dû choisir. Et en réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être d'habitants de ces républiques, Serbie, Bosnie, Croatie, Slovénie, Macédoine, Monténégro, Kosovo, qui peut-être aimeraient retrouver cette unité perdue, Marine Laroche-Joubert. Qu'en pensez-vous ?
En ce moment, ils ont fait un système assez complexe, un triumvirat, c'est-à-dire il y a à la fois un président croate, un président serbe et un président bosnien.
C'est le truc le plus complexe que vous pouvez imaginer.
C'est très complexe.
C'est n'importe quoi.
C'est une confédération. Oui, c'est ça. Exactement. C'est une fédération, peut-être plutôt. J'ai l'impression que c'est. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. Je lis aussi des articles étranges que maintenant c'est une destination touristique pour les émirs du Golfe. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous là-bas,
Guillaume
en tournant. Hein,
oui, je l'ai vu.
J'ai du mal à imaginer ça.
C'est malheureux parce que aujourd'hui, c'est l'exacerbation de l'identité religieuse qui prime, et je pense que l'Europe doit réagir et se réinvestir en Bosnie et dans ces pays qu'on a laissés pendant la guerre à l'abandon et qu'on laisse toujours à l'abandon. Et la misère engendre quoi ? Ben, la misère engendre la misère et engendre le nationalisme, engendre des gens qui, en effet, parce que pendant que l'Europe se retire de ce pays, évidemment, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie investissent. Et quand on parle de misère, on parle de se retrouver une famille et éventuellement la famille peut devenir religieuse. Et donc, c'est très grave. Moi, ce que j'ai rencontré à Sarajevo, c'est des gens qui ne sont absolument pas religieux. Ils ne sont pas plus catholiques, ils ne sont pas plus musulmans que nous ne sommes catholiques.
Vous voulez dire que maintenant, ça a évolué, que maintenant, il y a un phénomène de confessionnalisation, de communautarisme, pour reprendre un terme français ?
Malheureusement, il y a certaines personnes qui le sont. Et je crois qu'il faut absolument lutter contre ça parce que la majorité ne le sont pas. Et la majorité ne l'était pas du tout à l'époque. Et aujourd'hui, il y a une pointe de ça qu'il faut absolument arrêter.
Qu'on peut mettre en relation avec le fait que la Serbie vend justement des armes à l'Arabie Saoudite dans la guerre contre le Yémen.
C'est une catastrophe. Je sais bien que personne ne peut, et encore moins nous qui avons assisté au massacre et puis à ce qui s'est passé, être pour la guerre. Mais la façon dont la guerre s'est arrêtée au nom de Dayton et sur une constitution ethnique, c'est tout le contraire d'une constitution. C'est tout le contraire même de l'idée d'une constitution. C'est-à-dire que vous allez répartir les responsabilités entre les trois entités croates, bosniens et puis serbes.
Et ceci si à jamais, tout niveau institutionnel
si,
depuis
si,
là.
Et c'est institutionnalisé par les grandes puissances. Si jamais deux ont une bonne idée, vous êtes un a une bonne idée, les deux autres vont se mettre contre.
pour des choses de communautarisme, pour protéger leur propre idée nationaliste du pouvoir. L'Europe a une incroyable responsabilité dans le fait de ne pas être intervenue, d'avoir laissé faire ce massacre. Et quand vous écoutez les milices sur place, les milices serbes qui attaquaient, en disant au début on était 10 000, on était sûr que ça allait s'arrêter dans les 3 jours. Ça a continué le massacre. L'Europe s'est pas occupée de Sarajevo, et l'a laissé pour compte, et là, toutes les organisations humanitaires des pays arabes sont venues avec le wahhabisme, et ont essayé, et continuent d'essayer, de dire, puisque l'Europe ne fait rien, puisque l'Europe ne les intègre pas, puisqu'on est même contre maintenant le processus d'intégration des Balkans dans la demande d'adhésion à l'Europe, on les laisse encore une fois de côté, et ça va entraîner, bien sûr, de prochaines catastrophes.
Éric Bialam.
Alors, je reste pas totalement pessimiste. Alors c'est vrai que la Bosnie-Herzégovine, ça ressemble à rien comme pays. C'est gros comme Provence, Alpes-Côte d'Azur, hein, c'est 4 millions d'habitants. Là-dedans, vous avez 180 ministres. Vous avez une présidence tricéphale. Dans chaque obština, c'est-à-dire dans chaque commune, vous avez 3 maires. Un croate, un bosnien, c'est-à-dire un musulman, on va dire, et un serbe. Quand celui-ci daigne venir, mais enfin, quand il daigne pas venir, il a toujours un petit représentant, etc., histoire de pouvoir foutre la merde pour être vraiment... Enfin, bref, ça ne va pas. Ce pays ne produit rien, ne construit rien, n'est pas capable de construire quoi que ce soit. Ça aurait pu être la Suisse des Balkans, on a dit ça, mais bon, il n'y a pas de banque,
il n'y a rien qui fonctionne. Un point positif, c'est que là, vous voyez, j'ai trouvé une déclaration de Peter Handke, donc prix Nobel de littérature, en 1980.
Je vois tout le monde qui sourit autour de la table.
Il a du talent en tant qu'écrivain,
mais il a été très, on va dire.
Mais attendez, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que nous sommes en 1997 et voilà ce qu'il dit. Je n'ai rien contre la religion musulmane en soi, mais je crois que Sarajevo va devenir une ville islamique.
Non, mais Peter Handke, c'est monstrueux. C'est-à-dire, c'est un mec qui va faire des odes pour Milosevic, un mec qui est condamné pour crime contre l'humanité. Il va aller le voir, il va écrire pour lui comment on ait pu donner pour. Les fameuses discussions en ce moment sur l'homme et l'œuvre. Ouais. Vous pouvez lire Handke, vous pouvez aller voir les films que vous voulez, mais à partir du moment où on donne une récompense telle que prix Nobel, ça veut dire qu'il a eu raison d'aller serrer la main de Milosevic. Milosevic est un criminel contre l'humanité. La façon dont il a laissé faire les milices, dont il les a alimentés, dont il les a fourni les armes et aidé les milices, Handke est tout sauf celui qui peut parler sur la situation.
Et alors,
tout sauf lui.
Sur l'islam, quand même, faut bien voir que, alors, certes, il y a eu une espèce de mainmise de toutes les organisations soi-disant humanitaires qui venaient, qui sont là pour mettre en place un certain wahhabisme plus ou moins inféodé à l'Arabie Saoudite. Ils sont là. Est-ce qu'ils ont vraiment du succès en Bosnie-Herzégovine? Moi, j'ai pas vraiment l'impression. À chaque fois que les femmes se sont retrouvées complètement voilées, elles se font moquer par leurs coreligionnaires. Et quand je dis coreligionnaires, ce sont les autres musulmanes. Moi, je me souviens des premières réunions du parti d'action, du parti de l'action démocratique, donc qui était le parti musulman, on va dire, d'Izetbegovic après-guerre. Alors effectivement, ils étaient tous en vert. Enfin, toutes les nanas étaient en mini-jupe et il n'y en avait pas une voilée. Alors certes, elles étaient en vert. Bon, on peut appeler ça un parti musulman, moi je veux bien, mais enfin, ça a quand même pas grand-chose à voir avec l'islamisme. Et ça existe toujours.
Guillaume de Fontenay ?
Ben, sur le tournage, je peux dire que nous, on a passé, par exemple, 3 mois à préparer et à tourner ce film à Sarajevo en 2018, et jamais on a arrêté de travailler pour la prière ou pour quoi que ce soit. Il y a vraiment, je n'ai jamais vu de pression religieuse autour de notre tournage, autour de nous, d'aucune façon. Ils sont aussi musulmans que nous sommes cathos. Je veux dire, il y a un moment il faut qu'on arrête.
T'as une grande rue commerçante où tout le monde se balade un peu, une balade de tu vas le soir.
C'est le Paseo.
On se balade. Et là, le vrai problème qu'ont les parents, et je suis bien placé pour en parler, c'était les piercings des jeunes filles. C'est-à-dire qu'à 14-15 ans, on remonte jusque-là, et puis on se met un piercing et on va défiler et tout. Mais en aucun cas, le voile, malgré l'intérêt du wahhabisme pour essayer de donner de l'argent, pour séparer les petites filles, les garçons, de donner que de la nourriture à ceux qui iraient dans des classes séparées. Ils ont essayé ça. L'Iran a essayé ça. L'Iran a une ambassade. Ça n'accroche pas.
Et c'est encore donc une poche de résistance. Eh ben merci à vous quatre. On va continuer le débat tout de suite. Non, elle me regarde avec des yeux complètement terrifiés. Mais non, c'est la musique avec Marion Guilbeault en live. All right, let's
have a little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Elle s'est dit, mon bourreau me prend en otage une fois de plus, Marion Guilbeault.
Au secours, non, moi je vous propose de quitter un tout petit peu les crises balkaniques pour d'autres crises, celles qui animent notre invité musical et son folk tourmenté contemporain. Il s'appelle Leif Volbeck, il est né à Ottawa, il a étudié la philosophie en Islande avant de s'installer à Montréal et de se consacrer corps et âme à la musique, aux instruments, au son. Corps et âme, parce que vraiment, Leif Volbeck a été longtemps dans une recherche, dans une exigence extrême en ce qui concerne l'enregistrement de ses chansons. Ainsi, pour un de ses précédents disques, il avait séjourné dans pas moins de 4 studios pour trouver le son idéal, celui qui résonnait dans sa tête. Alors, pour son nouveau disque New Ways, bon, changement de paradigme, il a privilégié une approche moins cérébrale, plus intuitive, avec aussi un son, beaucoup plus minimaliste, plus chaleureux. Et cet enfant de Cohen, de Dylan, a voulu cette fois faire entendre le son du désir charnel comme spirituel. Et du coup, sa voix, elle a changé aussi un petit peu. Elle est proche de celle d'un Jeff Buckley, mais elle a pris des accents soul comme un prince, du Grand Nord.
On dirait moi.
Bah oui.
La traduction simultanée.
Vous commencez vraiment à me déteindre dessus, Laurence. Ouais, il nous faut des vacances. Alors, bonsoir Leif, comment ça va?
Cet homme semble fabuleux, c'est qui?
C'est vous. Alors moi j'ai lu que vous étiez atteint de synesthésie, c'est-à-dire que vous associez deux sens, en l'occurrence chez vous, c'est le son et la vue. Et du coup je me demandais de quelle couleur était la chanson que vous allez jouer ce soir dans le nouveau rendez-vous.
Elle est mauve.
D'accord.
Avec un peu de jaune dans les la bémols. C'est la bémol et fa mineur, donc fa mineur, c'est plus bleu, mauve comme Prince d'ailleurs.
On y est complètement. Alors on écoute la chanson Mauve de Leif Volbeck dans le NRV, c'est à vous.
Call me a boy. Once said I was crazy to love like I did. That ain't to mention the one that you hit. That ain't to mention the one that you hit. Face like a myth and a soft like the sea. Can't see your eyes when you're looking at me. Blade to the blade, just sharpen the truth. I know your eyes so much better than you. Mirrors ain't nothing that backwards for you. Photos are flat and you know that it's true. I know exactly the shade of the blue. I know exactly the shade of the blue. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. Between your two lips, I can feel it inside, collapsing the stairway, just heading outside. No one's ambition is blind to the sun. Keep up and never can't keep it for long. Round about midnight, the first that I knew, staring at me with those eyes so blue. Heart sweating August, no condoms at times. It don't come inside me and shatter my mind. Smile, kiss me and drifted to sleep. Street, I was pouring all over the sheets. Walking to work, nothing under your dress. Still living that summer, babe, I must confess. Now in a penny, it's true to you all. Used to be free, not convinced by the stars. Not so much science, but pseudo it seems. Leave so much room for my memories and dreams. Not making a case for you or for trying. There's energy swiftly to find the silence. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. It was never easy. It was never like that. Always leaving in the morning, but you was always coming back. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. She's
I'm so fine, she never be back, never be back. She's my woman, she loves me so fine, she never be back, never be back. She's my woman.
La vie en mauve.
La vie en mauve. C'est extrait de New Ways, c'est le dernier album de Leif Volbeek. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle flamand d'un seul coup, alors qu'on est à Montréal, ouais, voilà, tout va
les
bien, ça continue.
Oulala,
Trianon à Paris, accents, vous savez. Et voilà, et Leif Volbeek sera de retour au printemps pop-up du label, ce sera à Paris également le 25 avril 2020. La prise de son ce soir est assurée par Alexandre Chenet, Serge Viguier. Merci beaucoup d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Merci beaucoup. Que Michel Leib sorte de votre corps, Marion Guilbeault. Merci à nos invités, merci Eric Biegala, on vous retrouve sur France Culture. Martine Laroche-Joubert, je rappelle votre livre « Une femme au front », c'est au Cherche Midi. Romain Goupil, dans un tout autre registre, il y a le documentaire « Entzartung, la fureur de peindre », toujours disponible en replay sur Arte TV. Guillaume de Fontenay, « Sympathie pour le diable », bien sûr, ça sort demain en salle. Et je n'oublie pas la formidable réédition du livre de Paul Marchand, « Sympathie pour le diable », chez Stock, avec une, avec une préface
de
Manuel Carcassonne, très inspirée. C'était le NRV, première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV, la suite France Inter+, mais demain.
Quoi qu'est-ce ? De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout.
Demain, Trans en marche pour la reconnaissance à l'occasion de la sortie du film Lola vers la mer. Et en live, Marion ?
Par suite d'un mouvement de grève d'une certaine partie du personnel de Radio France, il n'y aura pas de live demain dans le Nouveau Rendez-vous.
Sans accent ?
Sans accent.
Parfait. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Christophe Bourseiller, Adrien Nazelli, Virginie Rosic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.